Le Mag Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Un Mag Éco présenté chaque semaine en binôme avec Olivier Amar du Journal des entreprises. Bonjour Olivier.
Bonjour Bastien.
Vous avez décidé d'inviter cette semaine le dirigeant d'Hortitrace, Eric Berg.
Oui, Eric Berg, dirigeant de la société Hortitrace à Angers. Bonjour.
Bonjour.
Alors créée en 2011, c'est une société de logistique qui travaille très majoritairement dans le domaine horticole et maraîcher. Depuis 2018, la société s'est ouverte aussi au marché de la menuiserie industrielle. Concrètement, Eric Berg, qu'est-ce que vous faites avec Hortitrace?
Oui, alors là, il faut toujours être un petit peu explicatif parce qu'on n'a pas un métier où en trois mots on peut dire ce qu'on fait. Nous faisons ce qu'on appelle de la logistique retour, c'est-à-dire que des produits qui sont conditionnés sur des palettes, dans des caisses, en l'occurrence sur des rolls pour la partie horticole, sont livrés par les producteurs, les industriels à leurs clients, et nous on assure le chemin retour de ces supports quand ils sont vides. Donc très concrètement, pour la partie horticole, dans toute la France, nous allons collecter dans les jardineries les rolls qui ont été expédiés par les pépiniéristes, horticulteurs qui travaillent avec nous. Et donc, on assure ce flux retour des magasins vers nos dépôts et de nos dépôts vers les producteurs pour que le matériel soit réutilisé et puisse faire une nouvelle boucle.
C'est que du matériel réutilisable.
Ce n'est que du matériel réutilisable. Notre mission, si on s'en donne une, c'est effectivement de favoriser pour nos clients la possibilité d'utiliser du matériel réutilisable en remplacement de matériel jetable.
Ça représente combien de palettes en une année comme ça?
Alors sur la partie horticole, on traite environ 200 000 mouvements de rôle sur l'ensemble de la France, que l'on collecte auprès de 2000 à 2200 jardineries. Sur la partie maraîchage, nous traitons environ 160 000 caisses.
Caisses en plastique.
Caisses en plastique, oui, tout à fait. Et pour l'instant, on raisonne en milliers sur la menuiserie industrielle qui se développe assez vite, mais on est dans les entre 8 et 10 000 mouvements sur ce matériel.
L'idée, c'est d'avoir des points de collecte un peu partout, hein, c'est ça?
L'idée, c'est d'avoir un maillage de dépôts qui permettent justement d'aller, on est sur des mouvements qui sont des mouvements relativement petits en termes de transport. On n'est pas comme dans le monde de la palette ou des supports qui se traitent et qui se transportent en camion complet. Nous, les collectes que l'on va réaliser, c'est quelques piles de rolls, quelques piles de caisses. Donc il faut qu'on ait un maillage effectivement assez fin qui nous permette d'aller faire ces collectes tout en faisant le moins de transport inutile, le moins de kilomètres à vide ou à plein. Et donc on a un maillage de dépôts, on a une vingtaine de dépôts en France qui nous permettent d'aller collecter sur quelques départements et donc d'avoir cette fréquence et cette régularité de flux.
Et vous n'êtes qu'en France?
Et nous ne sommes qu'en France pour les opérations, mais nous avons environ 15% du chiffre d'affaires qui se fait avec des clients étrangers qui ont des opérations en France et qui nous confient la gestion de leurs emballages sur la France.
Alors on l'a dit, vous avez créé l'entreprise en 2011. En 2018, vous êtes étendu au maraîchage. Ce qui est logique, c'est pas très éloigné de l'horticulture. Vous avez aussi développé l'activité dans la menuiserie industrielle, comme vous l'avez dit. C'est pas la même chose quand même.
Alors c'est pas le même support, mais c'est la même chose en termes de métier. C'est-à-dire que pour nous, c'est le même métier. C'est le même métier dans un univers différent, ce qui correspond à... Aujourd'hui, on a deux axes stratégiques de développement. Le premier, c'est justement cette diversification que je qualifierais d'horizontale, qui part du savoir-faire qu'on a développé grâce au monde horticole et qu'on développe aujourd'hui de façon horizontale vers d'autres univers. Le maraîchage, vous l'avez dit, qui est un univers cousin du premier. La menuiserie, on est aujourd'hui aussi présent dans des flux agroalimentaires, sur des bacs plastiques, des palogs, ce genre de choses, dans l'amont de la filière. Donc ce sont des matériels différents, mais pour nous, c'est le même métier de recevoir des informations de nos clients qui nous disent où ont été expédiés leurs supports, leurs emballages, et d'aller les récupérer, sachant qu'on est dans une collecte que je qualifierais de fine et de précise. On ne va pas récupérer 15 palettes au hasard, c'est vraiment les emballages de nos clients. Donc il y a une partie chez nous, gestion des données et traçabilité de nos données qui est très importante.
Vous n'assurez pas le transport, en revanche? Vous faites la logistique, mais vous ne transportez pas vous-même.
Alors, ce sont mes associés qui transportent.
Oui, c'est ça.
On est quand même... le montage de la société était justement un choix de se dire « Hortitrace, en tant que tel, n'investira pas dans des camions ou dans des entrepôts ». Par contre, on ne souhaitait pas non plus être un simple bureau d'affrètement qui va chercher du transport tous les jours en fonction de son besoin. Mon choix avait été de m'associer avec, en l'occurrence, 4 transporteurs qui permettaient dès le début d'avoir une couverture nationale des flux. Bien sûr, depuis, D'autres transporteurs sont venus se joindre en termes de ressources, mais nous sommes restés le même bloc d'associés du début. Et d'avoir des transporteurs associés me permet et permet à la société d'avoir des ressources, j'allais dire semi-internes, qui permettent justement de travailler avec des moyens qui nous sont dédiés.
La menuiserie industrielle, c'est quelque chose qui représente encore une petite partie de votre activité. C'est amené à se développer ?
C'est amené à se développer et je dirais, il n'y a pas de scoop encore ce matin, mais pas loin. On est effectivement sur plusieurs gros dossiers, notamment dans l'univers des magasins de bricolage. Et effectivement, là, on doit avoir dans les 12-18 mois un développement sur ce métier-là qui sera significatif.
Hortitrace, ça fait référence à l'horticulture. On est loin de la menuiserie, là. Vous allez changer de nom ?
Alors, c'est une question qu'on se pose depuis longtemps. J'allais dire, il y a 6 ou 7 ans qu'on se pose la question. À chaque étape de diversification, on se l'est posé.
Maraîchage, on n'était pas très loin.
Maraîchage, on n'était pas loin. Oui, c'est entre cousins, donc ça se comprend. L'industrie, c'est un petit peu plus loin. L'agroalimentaire, ça l'est aussi. Aujourd'hui, le choix qu'on a fait, on a travaillé l'année dernière, puisqu'à force de se poser la question entre nous, on ne trouvait toujours pas la réponse. Donc, on a travaillé l'année dernière avec un cabinet spécialisé dans l'identité de marque et dans les dimensions d'identité visuelle et donc verbiale. Et on a décidé de garder le nom. Pour le moment, il nous permet de faire référence justement à l'expertise et à ce qu'on a développé grâce au monde horticole. Et quelque part, il y a une notion un petit peu de carte de visite et une notion de justification aussi d'un savoir-faire acquis dans un univers dans lequel ce point est important et qui nous permet d'aller le présenter à d'autres en disant, voilà, on n'arrive pas ex nihilo, on n'arrive pas aussi chez vous par hasard.
C'est une référence, quoi.
On arrive parce qu'on a déjà ce fonds des 200 000 rolls qu'on sait gérer aujourd'hui depuis 12 ans et qui sont notre carte de visite. Donc pour l'instant, c'est notre histoire. J'allais dire après, comme souvent dans les noms, enfin je ne sais pas si mon camarade à côté aura aussi des choses par rapport à son nom, mais son nom, on y tient un peu, quoi. Le changer, c'est toujours un peu un petit crève-cœur. Donc pour l'instant, il nous plaît bien et on est à l'aise avec ce travail. L'agence avec laquelle on a travaillé nous a permis justement de se conforter, de se dire peut-être qu'on ne changera jamais, peut-être que dans un an ou deux, développement industriel un petit peu plus mature, on aura un besoin ou une envie de marque dédiée à ces flux industriels. Mais Hortitrace, ça nous va bien, c'est joli et ça sonne bien par rapport à notre histoire.
Éric Berg, je reviens sur ce que vous disiez juste avant, parce que voilà, ce secteur industriel, vous le dites, c'est un secteur d'avenir pour l'entreprise. Les partenaires, ils viennent par idéologie, parce que l'écologie, c'est devenu incontournable, ou parce que vraiment, il y a des opportunités de gains financiers également ?
Les partenaires, vous voulez dire les clients,
en l'occurrence. Les clients, pardon.
Mais qui sont des partenaires, hein. Vous voyez, j'avais justement fait la jonction. Je crois que, alors c'est très personnel, mais je pense que l'idéologie n'a pas grand-chose à faire dans le commerce. Elle a à faire dans la conviction que peut porter un chef d'entreprise, mais après, je ne pense pas qu'on puisse agir uniquement au nom de l'idéologie, et heureusement. Non, je crois qu'il faut justement faire la démonstration que des choix techniques, opérationnels, économiques, ont du sens par rapport à l'évolution nécessaire des enjeux climatiques ou autour du jetable notamment. Nous, le métier qui est le nôtre a ceci d'intéressant et de motivant, j'allais dire, en termes managériels pour les équipes, c'est que nos paramètres techniques, économiques et l'impact environnemental, en général, vont un peu dans le même sens. Je m'explique. En fait, nous, notre métier, c'est de mutualiser, de massifier des flux. Donc en fait, plus on va réussir à faire des flux massifs, plus on va réussir à agglomérer à des emballages même différents dans une même collecte, plus on va aller dans un magasin pour collecter un nombre important d'emballages, plus on va être performant, plus on va aussi avoir une réussite économique qui va être intéressante et plus on va, quelque part, limiter le nombre de transports possibles. Moi, dans la partie horticole, ce que l'on fait depuis 12 ans, c'est qu'on va chercher dans une jardinerie 25, 30, 40 rolls d'un coup pour 5, 6, 10 fournisseurs parfois qui les auraient collectés chacun deux par deux ou trois par trois il y a encore quelques années. Donc cet effet massif, on a fait notre premier bilan carbone il y a 3 ans. On va le remettre à jour l'année prochaine, ni pour des questions de labellisation, ni pour des questions de communication, mais pour trouver justement l'équilibre dans l'organisation de notre infrastructure entre la dimension régionale de collecte dont on parlait tout à l'heure, les flux plus, on va dire, de longue distance qu'on a à faire pour relivrer nos clients et s'en faire un guide, justement, de la construction de l'infrastructure et de sa performance.
Alors Eric Berg, vous avez une autre casquette. Vous êtes aussi président.
Je vais la mettre.
Voilà. Vous êtes aussi président du Forum de l'orientation. Ce Forum de l'orientation, il commence demain jeudi. Il se tient jusqu'à samedi au centre de au Parc Expo d'Angers. Il y a en ce moment, c'est pas toujours facile pour des jeunes de choisir leur orientation. Et puis on essaye de faire coller de plus en plus le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Est-ce qu'un forum comme ça, il est fait pour ça aussi ?
Il est tout à fait fait pour ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on tient beaucoup à ce nom de forum. On essaye de chasser du vocabulaire le terme de salon parce qu'on va justement au-delà. Le forum, ce n'est pas uniquement une enfilade de stands. C'est un parcours. Un parcours qui commence dès l'entrée avec le pôle dédié à l'orientation où les jeunes qui arrivent avec beaucoup de questions, pas de réponses, mais peut-être pas les bonnes questions. On va les aider à se poser les questions sur eux-mêmes, sur leurs envies, sur leurs goûts, sur là où ils sont à l'aise. Il y aura des systèmes de jeu aussi avec des photos, avec des choses pour les faire réagir. Il y a ensuite un parcours qui peut les emmener vers les pôles filières. On a 9 pôles filières où sont présentés des métiers, des secteurs d'activité, des rencontres avec des professionnels, avec des intervenants des écoles également. Et ensuite, le jeune peut aller, une fois qu'il aura fait ce parcours, vers, pour le coup, les stands où on va lui présenter les cursus, les formations. Donc vraiment, on cherche à construire un parcours avec aussi des éléments qui ont été donnés aux enseignants en avant des visites. On aide le jeune à se dire, tu sais pas où tu vas, ben c'est normal, t'as 14 ans, t'as 17 ans, c'est normal que tu saches pas où tu vas. Je crois qu'on cherche aussi à dédramatiser cette dimension de la non-connaissance ou du non-choix préétabli. Au contraire, on est là pour aider le jeune. Donc, il n'est pas d'orientation préétablie, c'est pas grave. À nous, par contre, entre autres, de lui apporter des éléments pour se questionner lui-même et découvrir des métiers que peut-être il ne soupçonnait pas et des univers sur lesquels peut-être il avait des a priori et qu'on va essayer de lui casser.
Est-ce qu'il y a des espaces suffisants, j'allais dire, dans le monde de l'enseignement aujourd'hui pour se poser justement ces questions-là? Et est-ce que c'est le rôle de l'école?
Je crois que c'est notre rôle à tous. Et si, les entreprises individuellement ou les réseaux d'entreprises sont aussi aujourd'hui sensibilisés à cela, c'est, je crois, parce qu'on a aussi, d'un point de vue très pragmatique, des enjeux autour du renouvellement de nos équipes, autour de l'intégration de jeunes dans nos équipes pour apporter de la compétence nouvelle, mais qu'on a aussi une responsabilité sociétale, pour le coup, à se dire, mais il y a un continuum de vie entre l'enfant, l'ado, l'étudiant, et puis demain le professionnel. Et on a, nous, à se dire, il ne faut pas qu'à chaque frontière, il y ait une fracture entre des mondes qui ne se sont pas parlé. Donc il faut, au contraire, je pense aussi que les évolutions sur l'apprentissage ont favorisé la rencontre à trois entre jeunes, établissements d'enseignement et entreprises, et qu'effectivement, on est de plus en plus, et c'est heureux, au niveau des chefs d'entreprise, à se préoccuper de ce lien et à s'impliquer dans ce lien. Moi cet engagement que j'ai depuis 8 ans maintenant sur le forum, c'est aussi, à titre, entre guillemets, mi-chef d'entreprise, mi-citoyen père de famille.
Eric Berg, merci en tout cas d'avoir été avec nous, dirigeant de l'entreprise de logistique Hortitras, président du forum de l'orientation qui débute demain à destination donc des 15-30 ans. Ça se passe au Parc des Expositions jusqu'à samedi. Renseignements sur le site internet forum-orientation-angers.fr. On reste dans l'actualité économique en juin. On fait le point à présent sur ce qu'il faut retenir de ces derniers jours, en commençant par des nouvelles de Kelio qui ouvre une filiale en Allemagne, Olivier.
Oui, déjà présent en Allemagne depuis 25 ans avec un réseau de distributeurs, l'éditeur de logiciels RH, de gestion du temps et de contrôle d'accès Kelio, c'était autrefois Baudet Software, a ouvert une filiale à Düsseldorf. La société Scholtes souhaitait renforcer sa présence dans le pays. Elle est déjà implantée en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas. Et elle se place maintenant parmi les leaders européens de son marché.
Le spécialiste de la peinture et décoration angevin Diopé GM reprend la société Opinel. Et on parle pas de couteau là.
Non, pas du tout. C'est une société qui est basée à Villedieu-les-Poêles dans la Manche, qui est aussi une société de distribution de peinture familiale avec 40 collaborateurs, qui a été créée en 2012. Et elle a 7 points de vente en Normandie et en Bretagne. Le groupe angevin Diopé GM avait déjà repris fin 2017 à Alençon dans l'Orne la société PGM, justement, avec cette nouvelle acquisition. Il atteint 30 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un effectif de 115 personnes et 18 agences réparties dans le Grand Ouest, de Rouen à Challans et de Rennes à Tours.
Et enfin, un nouveau directeur général a pris la tête d'Angers Technopole.
Oui, tout à fait. Emmanuel Lichou a été nommé directeur général d'Angers Technopole, qui a été créé en 86 pour accompagner l'innovation au service du développement économique sur le territoire. Il est diplômé de l'IMA, l'Institut de maths appliquées. Il avait fondé à Angers en 2014 Duca Conseil, qui était un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management. Il était depuis plusieurs mois directeur de transition d'Angers Technopole et puis il a été récemment confirmé dans ses fonctions.
Merci beaucoup Olivier. On poursuit notre magazine avec les débats de l'écho.
Les débats de l'écho, RCF Angers.